Pieds sur terre. Sonia Kronlund.
La réforme dite du plein emploi, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, prévoit de demander aux allocataires du RSA d'effectuer 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. On ne sait pas encore très bien quoi comme activité, ni comment cette disposition sera appliquée, mais elle semble répondre implicitement à l'idée reçue selon laquelle les allocataires du RSA seraient des feignants, assistés, heureux de ne rien faire d'autre que se tourner les pouces. Autrement dit, des personnes en train de frauder, de voler l'argent des honnêtes gens pour se payer des vacances. En plus de les mettre au boulot, il convient aussi de les contrôler. Être au RSA, c'est être sous surveillance. Les contrôleurs peuvent par exemple avoir accès à vos relevés bancaires et la moindre entrée d'argent peut faire sauter ou diminuer votre RSA, comme par exemple vendre un vêtement sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou recevoir de l'aide d'un proche. Un revenu minimum donc modulable pour que les allocataires restent vraiment pauvres. Et si celles et ceux qu'on qualifie souvent d'assistés étaient déjà, en fait, au travail? Voici tout de suite une des hypothèses de l'enquête hautement subjective, mais basée sur des faits bien vérifiés, qui nous est proposée tout de suite par Olivier Minot, derrière les clichés du RSA.
Je m'appelle Pascal, j'ai 44 ans, je suis musicien, écrivain et militant dans certains collectifs, notamment une ancienne brigade d'entraide, la brigade des Fauchés, voilà, pour personnes précaires. J'ai été inscrit automatiquement à France Travail.
Il y a presque 10 ans, dans un épisode des Pieds sur Terre intitulé « La fin du travail », j'essayais d'envisager l'instauration d'un revenu universel. Mon rêve caché était alors tout simplement de supprimer le travail, qui fait encore aujourd'hui 2 morts par jour en France, sans parler de toutes les maladies psychiques qu'il génère.
Disons que la valeur travail, c'est pas mon fort, et c'est plutôt quelque chose contre lequel je me positionne.
Aujourd'hui, je me rends bien compte que l'idée de remettre en question la valeur travail n'est pas à l'ordre du jour. Et le seul revenu de subsistance qui existe quand on refuse de travailler, c'est le RSA.
J'ai fait mon doctorat de lettres, comme quoi les études ne mènent pas forcément à la réussite sociale. Je l'ai soutenu en 2010.
C'est le choix qu'a fait Pascal, que je croise depuis des années dans mon quartier et qui touche le revenu de solidarité depuis 15 ans.
Bah, et après, il y a ces concours de circonstances hein, dans la vie. À un moment donné, une dépression, etc. Enfin bref, les débouchés de fait avec un doctorat de lettres sont assez minimes, hein, à part l'enseignement, chose que j'ai faite de façon assez brève et qui clairement n'était pas ma vocation, quoi. Je pense que j'aurais assez vite fait gonfler les statistiques des professeurs en dépression nerveuse ou en burn-out. À un moment donné, j'ai décidé de me consacrer à ce qui était mon vrai projet de base depuis le début, la musique, l'écriture, etc. quoi. J'ai joué dans plusieurs groupes, rock indé, punk, sorti plusieurs albums. On a fêté notre 100e concert il y a quelques temps. Voilà. Niveau écriture, je me suis occupé d'une revue, d'un fanzine depuis... le premier numéro est sorti en 2010, hein, directement dans la foulée, qui s'appelait International Utopiste. Puis là, en ce moment, depuis quelques années, je travaille sur un bouquin qui est en cours de rédaction, un essai. Voilà. Alors, je ne veux pas dire que j'ai choisi d'être au RSA parce que de fait j'ai pas choisi de vivre avec 550 euros et quelques par mois, et si je pouvais avoir plus et vivre plus confortablement, j'en serais très content. Le choix concrètement, c'est de ne pas jouer le jeu du capitalisme dans mon activité culturelle et en même temps effectivement de bénéficier d'argent de l'État. Il y a une contradiction, c'est vrai. Mais en même temps, toutes les activités dont je parle ne sont pas des activités égoïstes. Je fais du coup des concerts que des gens peuvent apprécier. Je sors des disques pour pas un centime, parce que les disques et tout ça sont vendus quasiment prix coûtant. J'ai fait une revue pendant 10 ans qui demande beaucoup de travail, pareil, pour pas un centime. Et finalement, 550 euros pour ce que je fais, c'est finalement pas cher à payer, j'ai presque envie de dire. Puis je parle même pas des collectifs militants dans lesquels j'ai pu être, voilà, notamment... un en rapport avec le RSA, qui s'appelait la Brigade des Fauchés, où je participais à une permanence d'entraide pour les personnes, évidemment encore une activité bénévole, mais socialement utile. Et ce que je pourrais dire aux gens qui m'accuseraient d'être un parasite, c'est comment est-ce que je suis le plus utile à la société? Est-ce que ce serait en prenant n'importe quel petit job de merde que je ferais pendant 2 mois, puis ensuite je retoucherais le chômage, puis ensuite j'en retrouverais un autre truc? Ou en faisant ce que je fais aujourd'hui, en participant à la vie culturelle de ma ville, en participant au débat politique avec ce que je peux écrire, en participant à la vie sociale dans les collectifs dans lesquels je fais partie, J'ai l'impression que je suis plus utile à la société en faisant ce que je fais aujourd'hui que j'allais faire je ne sais trop quel métier dans lequel je ne serais pas bon et où je ne servirais à rien, quoi. Quand j'ai été suivi pendant plusieurs années, c'était par une association, parce que les départements qui s'occupent du RSA délèguent ça à des associations ou à des entreprises privées. Donc, de par mes diplômes de littérature, moi j'ai été orienté du coup vers une association de cadres qui s'appelait CTP 69, voilà, c'était à Lyon, là, dans le quartier de Saint-Just. Dans une espèce de salle un peu tristoune là, à Saint-Just, on était une bonne dizaine de personnes minimum, où tout d'un coup on se retrouve face à un ancien chef d'entreprise à la retraite, et quand je suis arrivé et que j'ai parlé de mon projet et que j'ai répondu musicien-écrivain, j'ai vu un moment de panique dans les yeux de la personne en face de moi, qui évidemment n'y connaît absolument rien dans ce domaine-là, n'avait absolument aucun conseil, aucune aide à m'apporter, si ce n'est un jour de me donner ce conseil qui était d'aller contacter Bernard Pivot, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi Bernard Pivot se serait intéressé à ma situation et aurait voulu m'aider. Il a fini par avoir cette honnêteté d'admettre que de fait, il pouvait absolument rien pour moi, qu'il n'était pas du tout compétent pour m'encadrer. Et donc au bout d'un moment, ça m'avait marqué, la dernière phrase qu'il m'a dit, c'est « je m'éclate pas avec vous, monsieur voilà, ». Je suis musicien, je suis écrivain, ça intéresse personne d'un point de vue économique. Donc évidemment que si je peux aller faire serveur au McDo ou un truc dans le genre, ou caissier à Monoprix, ça arrangerait tout le monde. Et voilà, c'était un peu le bras de fer, parce qu'on sait que cette personne-là tient notre avenir financier entre ses mains, quoi. Elle a le pouvoir de nous couper absolument tous les vivres. Il faut avoir les nerfs solides à un moment donné, quoi. Voilà.
Pascal, est-ce que j'appelle un refusnik du travail ?
Je trouve qu'avoir tenu aussi longtemps avec ces pressions-là, ça démontre à quel point mon engagement dans l'écriture, la musique, etc. est sérieux, parce que si ça n'était pas le cas, j'aurais lâché l'affaire depuis belle lurette, quoi.
Il utilise des stratégies pour ne pas qu'on l'envoie sur le front de l'emploi, un peu comme à l'époque où on rusait pour éviter le service militaire.
Se faire passer pour alcoolique, ça peut être d'exagérer certaines choses, des choses comme ça, enfin bref... Si les gens sont prêts à faire ça, c'est qu'ils feraient de très mauvais employés pour les entreprises dans lesquelles on voudrait les envoyer.
Mais aujourd'hui, il doit redoubler d'efforts, puisque la réforme dite du plein emploi, entrée en vigueur en janvier 2025, durcit les conditions pour obtenir le RSA. Elle prévoit notamment l'obligation pour les allocataires de justifier de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Sinon, plus d'alloc.
Concrètement, le jour où Emmanuel Macron, dans la campagne présidentielle, a annoncé ces fameux 15-20 heures pour le RSA, depuis ce moment-là, je suis presque une espèce de survivaliste qui se prépare un peu à la catastrophe, c'est-à-dire qu'il va falloir être capable de vivre, quoi. Et voilà, du coup, j'attends ça avec angoisse, ce qui va me tomber dessus, quoi.
En vrai, cette mesure n'est pas encore vraiment appliquée et elle est sujette à différentes interprétations selon les endroits. Certains départements qui attribuent le RSA vont estimer que si la personne justifie de 15 heures de recherche d'emploi, on va la laisser tranquille. Tandis que d'autres projettent d'envoyer les allocataires en renfort dans les entreprises ou sur des travaux d'intérêt généraux, comme l'entretien des cimetières par exemple.
Il faudrait qu'on aille travailler 20 heures pour dire que oui, on aimerait récupérer nos 500 euros. Je trouve que c'est un peu plus humiliant qu'autre chose, mais...
Elle, c'est Maya. Pendant toute elle a la trentaine. Je la rencontre chez ses parents, en périphérie lyonnaise où elle vit. Et contrairement à Pascal, elle ne refuse pas le travail, mais elle en est provisoirement incapable.
Je suis de formation éducatrice spécialisée. J'étais en maison d'enfants à caractère social, c'est ce qu'on appelle les foyers en fait. Et moi j'étais sur un groupe de 10 jeunes, de 4 à 16 ans. Donc j'avais des conditions de travail compliquées, parce qu'on fait des heures, des heures, des heures, sans qu'il y ait forcément de rémunération derrière déjà. Et tout un tas de conditions de travail qui ont fait que j'ai fini par craquer. J'ai eu des enfants par exemple, je considère qu'ils sont partis plus détruits que quand ils sont arrivés. Donc par exemple, moi j'avais des enfants en référence avec situation d'inceste au domicile, faute de place, on les a renvoyés au domicile. C'est compliqué après d'aller dire aux enfants, tout ce qu'on t'a dit là pendant 3 ans, parle, communique, ne te laisse pas faire, tout ça, bon, au final, le juge te dit, bah si, tu rentres chez ton papa, donc c'est compliqué de tenir aussi après ce discours-là aux enfants, quoi, quand derrière, il n'y a rien qui suit, quoi. Donc à porter, c'est très, très, très compliqué. Au bout d'un moment, en fait, c'est une profession où on est très, très seul. Je réalisais ni la dépression, ni le burn-out, parce que bah, la vie continue, quoi. Il a quand même fallu que je voie le médecin pour me dire « Ok, ça ne va pas ». Donc j'ai démissionné en novembre et après la démission, je sais pertinemment que je n'aurai pas de droit. Donc j'ai commencé mes démarches pour avoir le RSA en me disant « Après c'est bon, je me relance ». Et en fait, le moment où c'est bon, je me relance, une angoisse. L'idée même de faire le CV, de faire les démarches, c'est tout à coup inenvisageable, quoi. J'aimerais bien y aller, mais je n'y arrive pas. En fait, quand on ne travaille pas, on se sent un peu en marge. En fait, on nous met tellement dans la tête que... voilà, il y a un côté un peu feignant, il y a un côté aussi fraudeur. Si j'étais plâtré des pieds à la tête, bon... personne me dirait ah bah tu vas pas travailler, c'est un peu exagéré, quoi. Là comme ça se voit pas, bah effectivement il y a encore plus ce regard de bah en fait enfin tu vas bien, quoi. Donc forcément, est-ce que la personne en face va pas se dire ah donc c'est pour toi que je paye je ne sais combien d'impôts, c'est pour toi que je paye, enfin il y a un petit truc de tu ne tires pas l'effort collectif, quoi. C'est tu prends l'argent mais tu n'en donnes pas. Dans le ressenti, c'est pas considéré comme un droit. Bon, on a quand même vu les dernières condamnations, que je ne pense pas que je sois celle qui coûte le plus cher à l'État français. Quand on voit le nombre de détournements, pour Jean-Marie Le Pen par exemple, et les autres qui vont suivre. Enfin, il y a un moment donné, quand on voit les sommes, je pense qu'avec nos 500 euros de RSA, on ne coûte pas le plus cher, quoi.
Là, je suis dans une salle municipale de la ville de Lyon. Un agent de la métropole projette un PowerPoint sur un mur défraîchi face à une cinquantaine de personnes bénéficiaires du RSA.
En quoi ça consiste ? C'est quoi l'objectif du RSA ? Il n'y a pas de mauvaise réponse.
Elles ont été convoquées avec la menace d'une perte des allocations en cas d'absence.
Je ne suis pas habitué, moi, quand je vis en caravane, nous on est forains. Je n'ai pas habitué à être enfermé comme ça.
Là, dans la salle, vous voulez dire ?
Oui, oui, oui. J'ai 7 millions à la colonne vertébrale, l'hélice écrasée, fracture du bassin, fracture de la hanche, la cheville brisée et une prothèse à la jambe. Des accidents de voiture. C'est vrai que c'est pas évident pour travailler. En plus, quand on ne sait pas lire et écrire, c'est dur.
Parmi les gens présents, j'ai pu voir des personnes en situation de handicap.
Je suis mis à l'air ça, ouais. Bon, oui, ça va, ça dépanne.
Une jeune graphiste au chômage, des mamans seules avec leurs poussettes, un Guinéen qui venait d'obtenir son statut de réfugié, mais aussi un auto-entrepreneur, Karen.
J'ai ouvert une société de VTC, donc chauffeur privé de public. On travaille avec des plateformes comme Uber, Bolt, etc. Et eux, ils ont des critères où il faut avoir des voitures récentes, il fallait que ce soit électrique. J'ai acheté une Tesla, 30 000, en occasion, en crédit du coup. Donc le mois, il commence, je suis déjà à 1 500 euros de dépenses. Il n'y a quasiment pas de bénéfices. On a 70 heures par semaine et tout. Là, sur mon compte en banque, là, je suis à moins 700 euros.
Avec ce chauffeur privé, j'ai compris que le RSA était aussi là pour aider des travailleurs ubérisés.
Ça fait un mois que j'ai fait la demande d'RSA, donc ça va un peu mieux.
Qui, malgré des heures et des heures de labeur, ne tire pas suffisamment de revenus.
Après, si moi, je suis déjà en activité, est-ce que, en plus des 70 heures, est-ce que je peux me coller 15 heures de travail par semaine en plus ? Je ne sais pas si ça va être possible ou pas, mais oui. Si c'est obligatoire, au moins, il faudra que je leur explique que moi, je travaille.
Les Uber ne sont pas les seuls travailleurs pauvres à avoir droit au RSA, il y a aussi les agriculteurs. En France, 10% des paysans touchent le RSA.
Moi, quand l'assistance sociale parle de faire des journées de travail d'intérêt collectif, je crois que je lui ai répondu, mais c'est une blague. Enfin,
c'est le cas de Benoît, que je rencontre sur ses terres maraîchères dans le Haut-Beaujolais.
Bah, je fais de la vente directe sur le marché, essentiellement des légumes de saison. Une trentaine de variétés différentes. Je fais sans aucun problème mes 8 heures par jour, on va dire 6 jours sur 7, quoi. Pas vraiment de vacances. Et je commence à avoir des problèmes de santé. Par exemple, les épaules qui sont un peu défoncées. Bah, je manipule des outils, des légumes, des caisses en permanence. Et depuis 25 ans. Et puis, bah, je déclare des revenus de l'ordre de 300-400 euros par mois, quoi. Donc, j'emprunte à ma famille, à mes amis, à mes copains, voilà. Les assistantes sociales, et puis faire un dossier de RSA, et puis voilà, quoi. De l'ordre de 200 euros, quoi. C'était pas facile d'avouer que j'étais pas capable de subvenir à mes besoins, quoi. Pour moi, c'est quand même, d'une certaine façon, un peu un échec personnel. Pour moi, ça n'a pas été simple du tout. Et puis, il fallait en permanence justifier, finalement, sa vie, ses choix. On se met un peu à poil devant l'administration, où on dit, ben, on gagne pas grand-chose, il faut quelle action je vais mettre en œuvre l'année prochaine pour pouvoir m'en sortir. Enfin, moi, je me sens un peu surveillé, un peu plus à la merci de l'extérieur, quoi. C'est très dégradant, quoi, parce que on fait rien de répréhensible. On va pas ruiner le pays en bouffant 200 balles par mois, quoi. Enfin.
Quand Benoît dit qu'il faut se mettre à poil pour justifier son droit de percevoir le RSA, c'est une image, évidemment. Mais quand j'ai accompagné un contrôleur de la CAF qui se rendait au domicile des allocataires dans le sud de la France, j'ai eu un peu l'impression de déshabiller la vie des gens.
Donc vous, vous étiez locataire,
ouais,
du logement,
c'est ça.
Et vous avez sous-loué une partie.
Voilà, c'est ça.
Mais à ce moment-là, vous vous connaissiez, vous vous connaissiez pas, il y avait déjà...
Oui, on se connaissait.
Oui, on se connaissait.
On s'est connus au travail... Donc elle est venue habiter avec moi, puis après du coup forcément comme on habitait ensemble...
Il n'y avait pas de vie de couple au départ.
Non, au départ, il n'y avait pas de...
Ok, voilà, d'accord.
On habitait sous le même toit, c'est vrai, mais chacun dans des chambres différentes, quoi.
D'accord, ok. Le 3 janvier 2021, là, même à cette époque-là, quand vous constituez la SAS en commun, il n'y a pas de notion de couple à ça.
Non, parce que pendant le Covid, en fait, elle a quitté l'entreprise, parce qu'elle a toujours voulu créer son restaurant. Donc je me suis dit, bah, moi si tu veux, je t'accompagne, c'est un projet qui m'intéresse aussi. Ah, donc on s'est lancé dans la restauration, mais on n'était pas en couple.
Donc là, vous êtes dans la restauration, c'est ça?
Là, j'ai mon restaurant en bas, dans lequel je travaille quasiment, je fais 6 jours sur 7.
Et moi, je travaille dans la journée à la communication, et le soir, je l'aide au restaurant. Ouais. Mais maintenant qu'il y a la petite, le soir, je garde souvent la petite. Quoi. En fait, on a calculé que jusqu'à 2026, ça allait être compliqué qu'elle se sorte d'un salaire. Quoi.
De toute façon, dans le dossier, je vais devoir me prononcer, à savoir, est-ce qu'il y a une vie de couple avant la date que vous avez déclarée.
Ah, c'est ça le...
C'est ça, c'est de... S'il y a une vie de couple avant, ça veut dire que, en fait, les prestations qu'on vous a versées à un moment donné, on aurait dû les calculer en fonction des revenus à monsieur, que la naissance de l'enfant, est-ce que ça va pas être peut-être l'élément que moi, je vais considérer comme étant l'élément déclencheur de la vie de couple.
Par contre, on était quand même pourtant pas en couple quand elle est née.
Même quand elle est née?
Ouais, parce que au contraire, avec le restaurant qu'on mettait enceinte, elle pouvait plus trop y être, et une fois que la naissance... Elle était aussi en arrêt, donc en fait j'étais en permanence au restaurant, elle était à la maison, mais on se voyait quasiment pas, quoi. Donc bon.
Si la naissance, ça sépare la frontière avec des colocataires voilà, à partir du 1er août, les prestations de toute façon étaient suspendues. Mais si on partait sur le 1er août, compte tenu que les droits étaient suspendus, je veux dire, au moins il n'y aurait rien à devoir.
Oui, c'est déjà pas mal.
C'est toujours ça.
Ce qu'on aimerait surtout, c'est que ces droits au RSA soient rétablis, on va dire.
Alors, attention. Le RSA, ce n'est pas une prestation individuelle. Si là, en fait, vous ne tirez pas de revenus, voilà, madame se dégage pas de salaire, que voilà, ça, je le comprends, mais la seule particularité du RSA, c'est que le RSA, il n'est pas individualisé.
Donc, du coup, on oublie le RSA, quoi.
Pour faire simple, oui.
Enfin, moi, ça me choque, hein, très clairement. Après, vous y êtes pour rien, mais non, c'est choquant, avouez. Ça devrait être individuel.
Quand on a un loyer à 1006, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, non, je pense
c'est que nous, si on n'avait pas de famille pour nous aider, on s'en sortirait pas. C'est ma mère qui me donne des sous, c'est sa mère qui l'aide, son père. Enfin, on n'arrive pas à vivre seul alors qu'on est adulte, on travaille comme des fous.
Quand on est au RSA et qu'on ne paye pas de loyer, on touche 550 euros.
Personne ne se contente de 550 euros pour vivre. C'est pas possible.
Être au RSA, ça veut dire quand même compter ses sous, hein, de fait.
On ne vit pas, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de vacances, c'est pas un confort.
J'achète un pantalon tous les 2 ou 3 ans, et puis c'est tout.
Si on paye un loyer, on peut avoir 640 euros. Mais si on a des allocations logement, cette somme peut baisser.
Je fais les fins de marché pour faire de la récup, pas de viande, pas de choses comme ça.
Je me retrouve en fin de mois à aller gratter 12,50€ pour aller m'acheter un paquet de clopes parce que je ne peux plus quoi.
Se chauffer l'hiver, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre quand on est au RSA, voilà concrètement.
Donc de l'assistanat, il faut avoir envie quoi, de se dire... J'ai pas envie d'aller travailler, allez, je vais me contenter de 500 balles, 600 balles grand maximum.
Quand on élève seul des enfants, on peut avoir 250€ de plus par enfant. Mais attention, toute rentrée d'argent est déduite des allocations.
Par exemple, on a besoin d'argent, on va vendre des affaires, des disques ou des livres sur le Bon Coin, Vinted pour les fringues. Bah, on est censé déclarer et de fait, l'argent donné va être déduit du RSA qu'on va toucher les 3 mois suivants. Et ce qui fait qu'au final, on n'a pas gagné d'argent, mais en plus de ça, on n'a plus nos affaires qu'on avait au préalable, quoi.
Les personnes percevant le RSA représentent aujourd'hui 13% de l'ensemble des allocataires de la CAF. Et ce sont les allocataires les plus pauvres. Et pourtant, je lis dans l'enquête sociologique que Vincent Dubois a menée auprès des CAF que les RSAistes sont beaucoup plus ciblés par les contrôles que les autres. Le chercheur explique qu'une des raisons à ce ciblage serait un algorithme mis en place par la CAF au début des années 2010.
À cette période, elle met en place son algorithme de scoring, donc à cette période, tous les allocataires de toutes les CAF en France voient chaque mois leur situation analysée pour ensuite qu'une note leur soit attribuée. Et si la note est trop mauvaise, ces personnes se retrouvent dans une liste de personnes à contrôler.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de cet algorithme, je suis allé voir Bastien, qui travaille à l'association La Quadrature du Net.
Pendant l'année 2022, on a demandé formellement à la CAF qu'elle nous communique tous les documents qu'elle avait à sa disposition sur cet algorithme de scoring. Initialement, la CAF nous a opposé une fin de non-recevoir. Donc nous, on saisit les voies de droit qui sont à notre disposition et la commission d'accès aux documents administratifs estime fin 2022 que les anciennes versions de l'algorithme doivent être communiquées. En 2023, enfin, la CAF communique les anciennes versions de son algorithme. En regardant le code source de l'algorithme, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de critères qui sont relatifs à la précarité économique des personnes qui vont faire augmenter le score de risque. Et donc, la conclusion qu'on a, c'est que ce score de risque, il va augmenter lorsqu'une personne est précaire, mais il va encore plus augmenter lorsque une personne déjà en situation de précarité a en plus un parcours de vie assez chaotique. Donc par exemple, le fait de changer régulièrement de résidence avec le code postal qui va changer, va augmenter le score de risque. Le fait d'avoir une modification récente du foyer, donc par exemple une personne qui se sépare de son conjoint, ça va faire augmenter le score de risque. Et donc ça révèle une politique plus large en matière d'aide sociale où on ne voit plus les personnes comme des humains mais comme des numéros qu'on peut analyser froidement. Donc on voit vraiment cette évolution autour du RSA comme étant la conséquence directe de la politique française de lutte contre les personnes les plus pauvres.
Alors je sais, la comparaison entre le contrôle des allocataires de la CAF et le contrôle fiscal est un peu facile. Mais quand même, en 2024, l'État a détecté 4 milliards d'euros de fraude sociale contre 16 milliards de fraude fiscale. Sans parler des estimations de l'évasion fiscale qui montent elles jusqu'à 100 milliards d'euros par an. Et même avec ces chiffres disproportionnés, j'ai du mal à imaginer un fonctionnaire débarquer chez Bernard Arnault pour lui demander de sortir ses relevés bancaires et lui poser des questions sur tel ou tel virement qu'il aurait reçu, comme le fait en ce moment ce gentil contrôleur en imperméable que le service presse de la CAF m'a autorisé de suivre.
Le 21 janvier, il y a eu un dépôt d'espèces de 950 euros. Vous savez, ça correspond à quoi le dépôt d'espèces ?
Si, c'est moi qui déposais parce que mon compte il était en débit, c'est pour faire paiement mon loyer.
Mais l'argent, il provient d'où ?
C'est mes enfants.
Ah, c'est les enfants, tout. Voilà.
C'est que eux qui peuvent me donner. Parce que vous savez, ça fait 3 mois, la CAF, il me verse que 600 euros et j'ai un loyer de 800.
Je comprends.
Je travaille toute ma vie que je suis en France. Je cherche le travail et je ne reste pas sans rien faire. J'ai un bac plus 9. J'ai fait maîtrise d'anglais, j'ai fait master de russe. Je parle 5 langues et je compte pas sur la CAF. C'est juste en attendant que je suis dans cette situation. Et comme heureusement mes enfants, elles travaillent, bien sûr, elles ne me laissent pas me débrouiller toute seule.
Là, quand je regarde le dossier, en fait, pourquoi vous n'avez pas reporté sur les déclarations trimestrielles les salaires des enfants ?
C'était l'époque qu'elle habitait avec son père.
C'était déclaré ou pas qu'elle était chez son père? Ou c'était juste comme ça?
C'était vers leur travail. Ils ont habité avec lui.
Parce que le papa, il a son propre logement, lui?
Il habite chez son cousin, voir sa famille.
Parce que ça peut partir sur une suspicion de fraude et à ce moment-là, un trop
c'est
perçu.
C'est pas même pas une fraude. La plupart du temps, elle était avec son père.
La question à laquelle je vais devoir répondre, c'est pourquoi ses salaires n'ont pas été déclarés?
Parce qu'il avait 21 ans et le CAF ne lui payait rien. Elle n'est pas avec moi. La CAF ne lui paye rien. Pour quelle raison je dois déclarer son salaire?
Certes, quand elle a eu 21 ans, on ne versait plus d'allocation familiale, mais elle comptait toujours comme une part pour le RSA. Le RSA, c'est jusque 25 ans.
Le RSA, c'est pour moi, c'est pas pour
non, elle. Le RSA, il est augmenté en fonction du nombre d'enfants. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi on vous demande les salaires d'un enfant?
Je me suis dit, mais elle a dit, je ne suis plus avec toi.
Là, au jour d'aujourd'hui, donc forcément, on va vous réclamer de l'argent. Chaque mois, on va faire des retenues, donc ça va...
Je ne sais pas, parce que je n'ai pas cherché des réponses, j'ai appelé aux impôts.
Mais la CAF, est-ce que vous avez appelé à la CAF, c'est ça que je...
Non, parce que impôt, c'est impôt.
Gardez à l'esprit que le fait de remettre des salaires pour des enfants sur 2 voire 3 ans, forcément, ça peut faire une dette importante.
Si.
Ça, vous en avez conscience?
Oui.
Voilà, ça, je voulais vous le préciser. Ok, ben voilà. Ça a été?
Ça a été.
Ouais. Okay, merci.
En sortant de chez cette dame, le contrôleur m'a confié qu'elle allait sans doute avoir à rembourser une somme de 10 à 15 000 euros parce qu'elle a mal déclaré les revenus pendant 2 ans. Ça m'a rappelé la dernière fois où France Travail m'a annoncé que je devais rembourser un trop-perçu dû à une erreur de leur part. Ça m'avait un peu mis en difficulté, sauf que la somme à rembourser était seulement de 500 euros et que je gagne beaucoup plus qu'un RSA.
Est-ce que vous êtes tranquille personnellement avec ça?
Oui.
Dire bah, cette famille va devoir rembourser 15, peut-être plus de 15 000 euros.
Bah, c'est vrai que je suis conscient des fois que les dettes, elles soient conséquentes et que des fois, c'est des personnes comme là, en difficulté, que ça va ajouter de la difficulté à la difficulté. Est-ce que pour autant, est-ce que j'arrive à rester serein et, alors oui, je sais faire preuve d'empathie, je ne suis pas inhumain, mais c'est ce que j'explique aux allocataires. Et puis des fois, ils le comprennent, c'est que voilà, c'est la règle. Ce rattrapage-là, il est obligatoire, au moins de manière réglementaire. C'est que de manière réglementaire, je ne peux pas... Voilà.
Au moment où je termine ce reportage, j'apprends que 72 départements refusent d'appliquer la revalorisation annuelle du RSA de quelques euros, car comme le dit le président du Conseil de la Drôme, on pousse à l'assistanat. On est effectivement bien loin de mes rêves de revenus universels sans contrepartie.
C'était Derrière les clichés du RSA, un reportage et une enquête signée Olivier Minot et réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à toutes les personnes qu'on a entendues dans l'émission, bien sûr. Un grand merci à Abdelkader Galal, à Virginie Roux de la CAF, à Rosemary Péchala, à Sandrine, à Françoise, à Valérie, à Marion Morel, à Gaspard Houdon et à Milouz. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.